Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM ou sur le net 5KUT.ca. Nous sommes toujours avec Arthur Picard des New Power, Marc Fafard de Cétyl sans uranium, Yvan Croteau du regroupement des groupes écologistes du Québec. Maintenant, j'aimerais parler avec poser la question sur les luttes que vous meniez déjà avant qu'il y ait cette grande annonce en grande pompe et fanfare, etc., du Plan Nord par Jean Charest. Comment ça se connecte avec le Plan Nord?
Mais pour nous, c'est sûr, ou Cétyl sans uranium, cétyl.org, pour ceux qui veulent aller voir le site Internet ou même sur Facebook. C'est notre troisième anniversaire, là, hier. On avait commencé à sensibiliser, informer, manifester à la Guignolée en 2008, à l'automne 2008. Puis on avait lancé Cétyl sans uranium 2009, pour l'année 2009. Ça nous a pris l'année de 2009 et de 2010 pour sortir du territoire, la compagnie Terra Venture, qui était à faire de l'exploration à l'intérieur des limites municipales de Cétyl. Ensuite, pour 2011, on a lancé la campagne Côte-Nord sans uranium 2011. Puis, présentement, ben, on se mobilise tous au Québec, que ce soit en Gaspésie, que ce soit dans les Hautes-Laurentides, que ce soit dans les Monts-Otiches, dans le coin de Chibougamau, ou en Mingani. Puis en Mingani, on a travaillé très fort là, cet automne, pour obtenir une résolution municipale des 8 différentes municipalités de la Mingani, soit de Rivière-au-Tonnerre jusqu'à Natashquan. Havre-Saint-Pierre, il y a 2 semaines, qui est la plus grande ville là, de la Mingani, a voté cette résolution-là qui demande un moratoire, puis la cessation là, de l'exploration et de l'exploitation, qui n'a pas encore l'exploitation, mais que l'exploration s'arrête sur les territoires municipaux en Mingani. Puis encore en début de semaine, la MRC de la Mingani devient la deuxième MRC au Québec à se prononcer contre l'exploration de l'uranium sur son territoire au complet. Donc, pour nous, la démarche continue face à l'exploration pour l'uranium, puisque c'est ce qu'on vit au Québec. Il n'y a encore aucune mine. Dans les 25 projets d'exploration actifs pour l'uranium présentement sur le territoire québécois, il y en a 3 ou 4 gros sites à fort potentiel d'intérêt commercial dans le coin de Bijouanbits, Aguaniche et Natashquan, donc juste à l'est de Havre-Saint-Pierre, à pas plus qu'une dizaine de kilomètres là en arrière des villages, donc à l'intérieur des municipalités et même de la MRC de la Mingani. Il y a aussi dans les Monts Otiches le projet Matouche de Strateco qui est en attente de son certificat d'autorisation pour la phase d'exploration majeure, qui est un projet de 350 millions où on va creuser un tunnel, une galerie d'amenée pour descendre à 300 mètres sous le sol pour commencer à faire de l'extraction de façon pilote pour être capable de faire le design de l'usine qui sera installée sur place dans les Monts Otiches. Mais au niveau de l'uranium, le Plan Nord a encore venu renchérir ce qu'on disait, nous, qu'il y a un moratoire sur le mot « uranium » au gouvernement du Québec. On comprend pas pourquoi le gouvernement du Québec a tellement peur de ce mot-là. Est-ce qu'il a déjà signé tout l'uranium du Québec à l'Inde, à la Chine? Est-ce que les industries minières comme Areva, Cameco ou même Strateco, qui est un très petit joueur, tiennent tellement fort la poignée dans le dos de Jean Charest qui peut pas laisser personne même débattre sur la notion de mine d'uranium au Québec? On le sait que partout ailleurs au monde, il y a eu des problèmes avec les résidus des mines d'uranium. L'industrie a même pas un bel exemple de mine sur la planète, de mine d'uranium, à nous montrer pour nous dire, regardez, ça va être comme ça, ça peut bien se faire, on est capable de gérer ça. Il y a aucun exemple où ça se fait de façon propre. Puis on a vu toutes les catastrophes là depuis les derniers 60 ans que l'industrie dit que c'est tout à fait la même industrie. L'industrie se dit, avec la renaissance du nucléaire, que les années 2000 ont amené une nouvelle façon de faire l'extraction des mines d'uranium, que les technologies sont à l'avant-garde et ci et ci et ça. Mais nous, quand on revient à la base, pour chaque livre d'uranium qu'on sort de la Côte-Nord ou du Québec, il reste 9 livres d'éléments radioactifs à aucune valeur commerciale qui vont rester dans la fine farine de résidus qui va être laissée sur place. Donc, un ratio de 1 à 10, 9 livres qui restent en résidus pour une livre qui sort. Puis, quand on regarde l'uranium tout de suite, il y a 2 types d'uranium qu'on connaît sur la planète. L'uranium 235, qui est l'uranium riche, et l'uranium 238, qui est pauvre. Si je prends la roche naturelle, son uranium naturel qui est à l'intérieur de cette roche-là contient les 2 types d'uranium, puis encore, on retrouve le même ratio, environ 10 % d'uranium riche, le 235, et puis 90 % d'uranium pauvre, le 238, qui va tout aller dans l'industrie militaire, non nucléaire, mais plutôt pour les balles, pour son poids, pour sa capacité d'absorber les chocs. C'est la maladie du Golfe, c'est la maladie, la nouvelle maladie des soldats canadiens et américains. On a vu le soldat Lamotte encore, qui est contaminé à l'uranium appauvri parce qu'il a manipulé des ogives ou des balles de fusil où ses blindages étaient en uranium. Donc, pour nous, quand on revient à la notion de mine d'uranium, pourquoi le gouvernement du Québec veut pas qu'on se pose la question, est-ce que ce minerai-là, puisqu'il est radioactif, est différent de tous les autres minerais qu'on connaît, qui sont disponibles dans notre sous-sol au Québec? Nous, on demande, oui, on demande au projet de loi 14 de faire cette distinction-là. On demande au gouvernement du Québec de soit mettre en place un moratoire sur l'exploitation de l'uranium et non l'exploration, puisqu'il n'y a pas de mine, on n'aurait pas à compenser personne si on change les règlements du jeu en faisant un moratoire. Il n'y a personne qui est déjà engagé dans une mine. Puis on demande aussi, comme pour les gaz de schiste, comme pour le pétrole dans le fleuve, une étude environnementale stratégique sur l'activité minière qui s'appelle mine d'uranium. On n'a aucune expérience de ça au Québec. C'est totalement gratuit et farfelu de faire comme si c'était de la bouffe pour les clowns. On peut pas se permettre de garder les yeux dans le sable puis la tête dans le sable en pensant que les mines d'uranium s'en viennent sur le territoire. Les monts Otiche, c'est à environ une centaine de kilomètres, même pas, du bassin versant de la rivière Manicouagan. Donc pour nous, comme pour Gentilly, s'il y avait un accident, le POF de Boucan qui va sortir avec des isotopes radioactifs contaminants pour l'environnement va être déplacé par le vent ou par l'eau puisqu'on vit en bas du fleuve puis en bas des vents dominants. Après une dizaine d'heures de vent normal, la contamination va être à cette île. De la même façon, avec le vent du nord, pour le radon ou les poussières fines qui pourraient sortir de ma touche, vont être rendues chez nous dans l'espace de quelques heures. Donc, on parle de contamination qui affecte le système nerveux, la chaîne d'ADN. Donc, on ne joue pas, ce n'est pas du brocoli, de l'uranium. Donc, on dit à Jean Charest, pourquoi faites-vous l'autruche? Que cachez-vous? Nous, ce qu'on pense, c'est que le plan Nord, c'est un show de boucan pour cacher le potentiel uranifère, qui est probablement le métaux avec les diamants puis l'or, qui sont les plus en demande là, présentement, ou qui ont la plus grande valeur, si on veut, sur le circuit mondial des métaux.
Et vous, Arthur Picard, comment vos luttes que vous meniez avant s'articulent avec les luttes contre ce que Charest a annoncé comme étant le plan Nord?
Ben nous, on sait que la lutte, ça fait longtemps, il a commencé sur le terrain. On était en recours juridique, en litige juridique avec le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien aussi. C'était sur des litiges passés. On sait que nous, on est dans notre communauté, dans notre tassinade, on fait un apport énergétique. Le quart de la production énergétique du Québec provient d'une tassinade de notre communauté. Fait que là, depuis un bout, on s'entendait pas. On avait eu des guerres avec Kruger aussi. Kruger, on a...
La compagnie forestière.
Oui, on a réussi à faire fermer la compagnie forestière dans le bout de Réguenau, pas loin de notre communauté. Ça avait fait pas mal de bruit avec l'île René Levasseur aussi qui avait été au travers, mais ce qui est arrivé, le plan Nord, quand il est sorti en grande pompe, nous autres, je dirais, ouais, au début de l'hiver passé, on était déjà en préparation à vouloir donner des représailles au gouvernement du Québec pour y montrer qu'on était sérieux, que le développement s'était fait à notre insu. Imagine quand on a su qu'il allait avoir un futur développement, qu'on était déjà avec des gros litiges avec lui. Là, on a commencé à prendre, on s'est radicalisé, mettons, un peu. Ça s'est ébruité dans la communauté. Nous, on était en train de préparer un blocus routier pour montrer nos intentions, qu'on était sérieux au gouvernement du Québec. On lui a donné une mise en garde sérieuse. Il a semblé ignorer notre blocus, mais aujourd'hui, présentement, à l'heure où on se parle, on est des groupes de pression, on est en train de se mettre à table, regarder, ça va être quoi la prochaine avenue. Il peut y avoir des perturbations routières, mais on va lutter activement contre le plan Nord. Le chef de notre communauté, lui, il est parti, il va partir en Europe, suivre Jean Charest, puis affirmer que notre première nation de Pessamit, qu'on n'est vraiment pas d'accord avec l'avenue du plan Nord, que c'est de mauvais augure pour les Premières Nations. Il n'y a pas grand-chose que des portes ouvertes, je te dirais. Il n'y a pas d'entente de partenariat. Peut-être qu'il y aurait eu des ententes de partenariat, mais on dit toujours que ça soit le plus vert possible. Mais nous, les militants, on se prépare sur le terrain. On est en train de monter nos équipes. On dit que les autres communautés aussi, des autres communautés, nous, on est 9 communautés sur la Côte-Nord. Les autres communautés sont après se mobiliser aussi, eux autres aussi. Depuis qu'on a commencé à lutter contre le plan Nord, l'hiver passé, on a fait pas mal de... Ça l'a fait mouche des autres communautés. Ils sont ralliés à notre cause, mais là, ça grandit encore, puis ça finira pas, je pense.
Et vous, Yvan Croteau, du regroupement du groupe écologiste du Québec?
Le réseau, lui, existe depuis à peu près 28 ans. Puis nous, on regroupe une soixantaine de groupes environnementaux répartis un peu partout au Québec. Notre approche est très globale. Jusqu'à maintenant, pour le Plan Nord, depuis 2009, on a animé des rencontres entre les groupes pour essayer d'identifier des stratégies communes pour modifier de façon radicale des propositions actuelles sur le Plan Nord. L'une des choses, c'était de s'attaquer à la loi sur les mines qui a des droits sur l'ensemble des autres droits qui existent au Québec. Le ministre Simard vient d'annoncer qu'il venait soustraire à peu près 1% des territoires qui ne seront pas soumis à cette loi-là si les communautés le désirent. Mais ce qui reste quand même 99% du territoire qui va être soumis à la suprématie de la loi sur les mines sur les autres droits territoriaux. Puis pour nous, ça, c'est inacceptable. On pense que dans la démarche d'un développement durable respectueux des populations, respectueux de l'environnement, on doit absolument, considérer le travail, les communautés qui sont présentes, le cadre réglementaire, puis les capacités du territoire à recevoir des projets industriels. Si les projets industriels ne respectent pas ces trois conditions-là, ben pour moi, c'est parce qu'on n'a pas la technologie ou on n'a pas les conditions pour les mettre en œuvre. Elles doivent attendre ces projets-là, puis on doit développer de façon à respecter les enjeux environnementaux puis respecter les communautés qui y vivent. En matière de forêt, c'est la même chose. Il y a un nouveau projet de loi qui s'en vient. On a travaillé avec plusieurs groupes pour faire modifier l'ancienne loi sur les forêts. La proposition sur la table veut qu'on pratique un aménagement en fonction des caractéristiques naturelles des écosystèmes. Reste à voir comment tout ça va se faire. Puis dans cette perspective-là, l'aménagement devrait se faire de manière à retrouver les pourcentages des vieilles forêts qui existaient avant, c'est-à-dire en haut de 40% des forêts. C'est pour ça qu'on ne retrouve plus au Québec des forêts de forte dimension. On a seulement des cure-dents à exploiter parce qu'on est allé trop rapidement, trop vite à exploiter les forêts. Puis ça va se retrouver sur le Plan Nord si on ne respecte pas cette dimension-là. Puis si on... Il y a une étude qui est attendue, là. Il y a un groupe d'experts qui doit se pencher sur la limite nordique. On va être extrêmement vigilants sur les conclusions de ce rapport-là parce qu'on pense que l'aménagement de la forêt, c'est déterminant pour l'avenir des communautés qui vivent de ces territoires-là. Puis même les communautés du Nord qui ont exploité les territoires autour de leur communauté, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des fermetures d'usines parce que, justement, on ne respectait pas les capacités de la forêt à se renouveler naturellement. Fait que ça, c'est d'autres exemples, mais on touche évidemment l'énergie aussi. L'énergie, est-ce qu'on a besoin de cette énergie-là? On pense que par une gestion intelligente, par la réduction, par des mesures d'isolation de nos maisons, les gens ne savent pas, mais il y a 52% de l'énergie qui sert à chauffer les oiseaux à cause du transport, à cause de l'inefficacité de nos systèmes. On pense que c'est là qu'on doit mettre l'argent s'il y a de l'argent à mettre. Puis pour la réduction des gaz à effet de serre.
Je pense qu'on va passer à Marc Pfaffer qui voulait parler des conditions des travailleurs qui vont aller travailler sur le Plan Nord.
Ben, c'est bon. Pour nous, à cette île, comme un peu, j'imagine, à l'Abitibi-Témiscamingue, il y a de l'effervescence parce qu'il y a de nouvelles mines qui parlent de se construire. C'est encore, je le dis, c'est pas des projets du Plan Nord qui amènent les travailleurs tout de suite, là, mais à Fermont, on a près de 2000 travailleurs qui sont là sur une base fly-in, fly-out. À La Romaine, près de Havre-Saint-Pierre, il y a aussi 1500 travailleurs qui travaillent pour Hydro-Québec sur une base fly-in, fly-out. À cette île, les hôtels sont pleins à la semaine longue. La fin de semaine, ils sont vides, mais les travailleurs utilisent tout l'hébergement possible, disponible. Puis, on a vu le problème, que ce soit à Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre ou Fermont, le prix de la valeur des maisons pour Monsieur Tout-le-Monde est plus accessible. On peut plus, avec 12, 13, 14 piastres de l'heure, se louer un appartement qui coûtait environ 400 $ il y a un an et demi à Sept-Îles, qui est maintenant 1400 ou 1200 $ pour un 4,5 ou un 5,5 à Sept-Îles. Donc, les vrais habitants de la Côte-Nord sont désavantagés, puis même poussés, puis même rejetés par la Côte-Nord avec ce boom-là, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'y vivre maintenant. Tous les prix, tout augmente. Quand on voit une mine arriver, on pense au gros portefeuille, puis le transporteur facture plus cher, le restaurateur facture plus cher, tout le monde facture plus cher pour profiter de la manne. Puis qui en soupe, c'est les habitants sur place. Donc, ce qui est important, comme monsieur de Labatte parlait tantôt, l'acceptabilité sociale dans les principes de développement durable, si on est pour aller de l'avant avec un plan Nord, faudra que tous les projets soient examinés dès la phase d'exploration, quand on parle des centaines de millions en phase d'exploration, dès la phase d'exploration par les habitants, par le peuple, puis il faudra définir un cadre et une structure pour quantifier l'acceptabilité sociale. Tout de suite, c'est un mot qui est galvanisé, on parle d'acceptabilité sociale, mais encore le ministre Gignac est venu à cette île la semaine passée dire que c'était une résolution d'un conseil municipal qui était l'acceptabilité sociale. Donc, il y a beaucoup de définitions à faire encore.
Le temps s'achève, mais je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de bien de ce gouvernement-là? Puis sinon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'oppose? Et au-delà des revendications qu'on peut faire au gouvernement, parce que si le gouvernement il met pas du bon à vouloir prendre vos revendications, ben il faut s'opposer de d'autres façons que par son biais. Alors,
nous autres,
je crois qu'Arthur Picard voulait parler en premier.
Allez, c'est pas grave.
Je pensais qu'il avait terminé.
Excusez-moi. Non, il commençait.
Okay. Nous autres, c'est comme on disait pour le plan Nord, ça va se passer sur le terrain. Les prochaines luttes vont se décider sur le terrain, à militer sur le terrain, à démontrer notre opposition, une opposition féroce au plan Nord. Toutes les avenues sont encore possibles aujourd'hui. On a lancé le message au gouvernement l'autre fois que ça risquait de dégénérer s'ils continuaient à faire ignorer le cas des Inuits. Alors, nous autres, on va militer sur Nitassinan, ça va être notre objectif.
Marc Fafard?
Mais pour nous, ce qui compte, c'est de sensibiliser les gens.
Sachant qu'il reste à peu près 4 minutes.
Oui, faut que les gens soient informés. Sur la Côte-Nord, on l'a vu, puis on peut dire même au Québec, tous les gens qui sont conscients du problème des mines d'uranium ou de l'énergie nucléaire, 90% de ces gens-là sont contre. Donc, notre objectif, c'est sûr, ça l'est le même depuis le début, permettre aux gens de trouver de l'information, se faire leur propre idée. Puis nous, on a confiance que l'intelligence sociale, la capacité des gens d'agir en fonction du bien-être de leur vie et de leur territoire va faire en sorte que lorsqu'ils vont être questionnés sur l'acceptabilité sociale, par exemple, les gens vont dire non aux projets qui sont pas bons pour notre territoire.
Et vous, Yvan Croteau, très, très, très rapidement.
Très rapidement, nous, on pense que le système doit changer. Le système actuel, que ce soit la gouvernance en termes d'État ou la façon de mettre en œuvre des projets de développement économique, doivent complètement changer. Puis, se mettre au pas des capacités, j'irais, des territoires à absorber ces projets-là, puis c'est ce qu'on fait pas. On s'imagine qu'on peut continuer de développer comme avant, puis qu'il n'y aura pas d'impact, puis les rapports d'Ouranos, là, qui est un groupe d'experts sur les changements climatiques, nous disent clairement que le Québec il est extrêmement fragilisé par sa position, et ça, on n'en tient pas compte dans le développement. Fait que nous, on pense qu'on doit reconfigurer à la fois la toute la question de la démocratie.
C'est pas mal tout le temps qu'on avait. Est-ce que vous pouvez accélérer un peu, s'il vous plaît?
C'est beau. Merci.
OK. Et en dernier, tout dernier, une minute, est-ce que vous pouvez nous donner des sources de référence autres que les médias, parce qu'on voit ce que les médias font en ce moment? Hein?
Ben, il s'agit, en tout cas, de nous autres, pour le côté nucléaire, allez voir en France la CRIRAD, C-R-I-I-R-A-D. C'est le seul laboratoire qui est accrédité de façon internationale, puis qui aide toutes les communautés sur la Terre qui sont affligées par le fléau des mines d'uranium.
Voir Arthur Picard, est-ce qu'il y a des bonnes sources de référence sur vos luttes qui iraient au-delà de qu'est-ce que les médias de masse ou les médias dominants corporatistes disent?
Les journaux locaux. Il faut penser aussi que quand on parle médias, je reprends la parole, c'est Marc Fafard, n'oubliez pas d'aller voir les journaux locaux comme nous, le Nord-Côtier, le Nord-Est. En Abitibi, la même chose. Là-dedans, on voit les lettres ouvertes. On a le feeling de ce qui se passe sur le territoire. Les médias locaux, ça développe une expertise immense par rapport au plan Nord puis au développement économique. Il faut les gens aller voir le Nord-Est, le Nord-Côtier, puis les journaux locaux en région.
Pour nous, on utilise beaucoup les réseaux sociaux via Facebook. On a un groupe qui est InnoPower, InnoPower. C'est un groupe de discussion Facebook. Nos actions sont tout le temps en temps réel. Lors du blocus routier de la 138, on a en temps réel, on diffusait tout le temps de l'information. On a fait un blocus Hydro-Québec l'autre fois aussi. On a diffusé l'information tout le temps au fur et à mesure.
Bien, merci beaucoup. Puis, Yvan Croteau, juste en 30 secondes, est-ce qu'il peut nous donner le site web du RQGE? du regroupement des groupes écologistes du Québec?
Vous faites seulement RQGE, puis vous allez retrouver des dossiers sur les forêts, sur l'énergie, sur l'eau.
Et sur plein d'autres choses.
C'est ça.
OK. Bien, merci beaucoup, Yvan Croteau, de Regroupement écologiste du Québec. Merci beaucoup, Marc Fafard, de 700 uranium. Merci beaucoup, Arthur Picard, de New Power.
Niot.
Merci. Miigwech.
Bye. Thanks. Ciao.